Ordinaire, ça va bien, nous.
Je suis aussi très heureux d'être à nouveau cette année parmi vous.
Je ne dis pas que la année nous m'a bien vu.
Que le Seigneur ait conduit et aplani le chemin pour venir. Comme le frère Michel, l'année écoulée est pour nous riche d'événements.
Michel,
il y a eu dans ma vie un événement triste. Parce que mon papa est tombé dans les escaliers. Il a eu une hémorragie cérébrale. Et il est parti pour être avec le Seigneur. Alors comme c'était un croyant, nous sommes heureux pour lui parce que sa situation est mieux que sur la terre. Il avait perdu la vie depuis une quinzaine d'années. Et ce n'est pas facile de vivre sans la vue. En plus, il était devenu âgé puisqu'il avait dépassé
90 ans.
Et pour nous, c'est nous attriste qu'il n'est plus avec nous dans la famille. Mais nous devons respecter aussi si le Seigneur l'a repris à lui et il l'a décidé ainsi. Il y a eu aussi un événement heureux dans notre famille. Notre deuxième fille, qui s'appelle Gwenaël, elle s'était fait baptiser il y a 2-3 ans. Et elle a demandé sa place à la table du Seigneur. Ce sont des étapes importantes dans la vie des jeunes personnes. Et des sujets de joie pour les parents et l'assemblée. Quand des jeunes s'engagent sur le chemin du Seigneur. Voilà, nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui. Nous avons le livre des rois. Premier et deuxième livre des rois. Pendant 3 jours. Je vous propose de prendre chacun votre Bible. Et de l'ouvrir au premier livre de Samuel. Chapitre 1er. Et vous maintenez votre doigt ou une partie de votre main sur cette page. Et là, premier chapitre. Ensuite, vous l'ouvrez au dernier chapitre du deuxième livre des chroniques. Deux chroniques 36.
Kulondola mwibiji chapitre wa 13 ni mwisambombo kundeke.
Et vous mettez à nouveau un doigt ou une main ou vous prenez votre Bible pour cette portion comme moi.
Ndiwambula chisumbu cha manyi mushindu ndi mwambule bachikabe muka ndanza chimba cha kadi.
Et ça représente la période des rois en Israël.
Kasumbuka mabechika ndina kumuchanza katika leja bakalenge muyisale.
C'est une période d'environ
500-600
ans. Depuis le premier roi qui était Saül, jusqu'au dernier roi, Sédécias, qui a été emporté à Babylone. C'est la période de la royauté en Israël. En plus, pendant cette période, qui va d'environ avant notre ère 1100 à 580,
en gros,
Dans cette période ont été écrits d'autres livres de la Bible. La plupart des proverbes. L'Ecclésiaste. Le Cantique des Cantiques. Et beaucoup de prophètes. Comme Esaïe, Jérémie, donc beaucoup de prophètes importants qui vont rajouter beaucoup de pages de la Bible. Donc pour les Saintes Écritures, cette période de la royauté était très riche en production, si on peut dire, de Saintes Écritures. Maintenant, nous allons nous concentrer sur un roi et deux rois. Pendant cette FBS. Alors, nous ouvrons notre Bible au premier livre des rois. Premier chapitre. Encore en introduction, le premier livre et le deuxième livre de Samuel nous présentent essentiellement l'histoire de Samuel, qui était le dernier juge. Saül, le premier roi, et David, le deuxième roi. Et là, si nous ouvrons nos Bibles, à un roi,
un.
Nous avons la fin de la vie de David. Et la transition du royaume à son fils
Salomon.
Alors, qui a écrit le livre des rois? Personne n'est cité. Autrefois, il y avait un seul écrit pour un et deux rois. Ça a été séparé en deux parties à la traduction en grec. Qui a eu lieu environ 200 avant notre
ère.
Et depuis, les différentes traductions ont repris les deux parties. Donc l'auteur, comme on a dit, il n'est pas mentionné. Il y a des suppositions. Ce que l'on peut penser, c'est qu'il a été mis ensemble différents écrits par Jérémie. Le prophète Jérémie s'est probablement basé sur différents écrits des livres des chroniques. Pour le mettre ensemble selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une bonne possibilité. Plus précisément, le récit de ces rois, donc du premier livre, premier chapitre, jusqu'au deuxième livre, dernier chapitre, se déroule environ sur 400 ans. Nous avons une suite chronologique. Un roi après l'autre. Nous avons d'abord le royaume qui est toujours uni avec
Salomon.
C'est les 11 premiers chapitres. Après Salomon, le royaume va se diviser en deux parties.
C'est
depuis le 12e chapitre jusqu'à 2 rois
17.
À ce moment-là, disparaît le royaume du Nord. Et du chapitre 18 de 2 rois à
25,
nous avons l'histoire du royaume de Juda au sud, qui va continuer jusqu'à la déportation à Babylone. Donc, ça nous donne le plan. Un roi, 1 à 11, Salomon. Un roi, 12 à 2 rois, 17. Royaume du Nord, Royaume du Sud. Divisé.
Et
deux rois 18 à 25. Seulement la suite et la fin du Royaume du Sud. Depuis la division, en général, le royaume du Nord est appelé Royaume d'Israël.
Et
Royaume du Sud, Juda. Dans ces livres, nous voyons surtout l'histoire sous la responsabilité de l'homme. Et de l'autre côté, Dieu qui doit exercer son jugement sur le mal. Et à la fin, malheureusement, jusqu'à l'exil.
Le
royaume du Nord va être déplacé dans le royaume de Assyrie au nord-est. Le royaume du Sud va être déplacé à Babylone. Nous verrons cela plus en détail. Pour maintenir le peuple dans le droit chemin, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes pour rappeler le peuple à la repentance. Mais malheureusement, de manière générale, le peuple n'a pas beaucoup écouté les prophètes. Et c'est pour cela que Dieu a dû agir en fonction de ce qu'il a averti. Il y a eu 19 rois dans la partie du Nord. Tous, sans exception, ont fait ce qui est mauvais. C'est terrible, 19 rois mauvais. Dans le sud, il y a eu quelques rois qui ont été fidèles. Mais aussi beaucoup qui étaient mauvais. Alors nous pouvons lire, pour commencer, un verset clé. Chapitre 19 de 1 roi. Verset 4 à
9.
1 roi 9, 4 à 9. Depuis le verset 4 jusqu'au verset 9.
Mm-hmm. Jusqu'à la fin du verset 7,
oui.
Alors nous voyons ici que Dieu, il avait prévu d'avoir pour lui un peuple qu'il avait délivré d'Égypte. Et il lui a dit précisément depuis le début qu'il ne fallait pas adorer des idoles. Tous les peuples de la terre avaient abandonné le vrai Dieu créateur. Et beaucoup s'étaient fait des statues en bois, en pierre, des fois recouverts d'argent ou d'or. Ils se prosternaient devant ces statues. C'était une insulte pour le Dieu créateur. Alors le peuple d'Israël devait être différent. Il devait adorer le vrai Dieu créateur. Alors Dieu l'a averti, attention, ne retombe pas dans les choses d'autrefois de ces nations. C'est pour ça que ce passage, on peut le voir comme un passage clé pour les 3:1-2. Le peuple d'Israël a eu tendance à retourner toujours de nouveau vers les idoles. Et Dieu a envoyé les prophètes pour le faire retourner vers lui. Quelquefois ils ont écouté, mais souvent ils n'ont pas écouté. Quelques prophètes étaient particulièrement puissants. Le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Esaïe par exemple.
Mon prophète Élie, Elisha, ni Yeshaï.
Mais c'était des vies de prophètes difficiles avec beaucoup d'opposition. Maintenant, nous allons retourner au début du premier livre des rois. Nous voyons tout au début, on ne va pas lire les passages parce que nous avons beaucoup de matière. Mais le roi David est devenu très âgé. Il a plusieurs fils. Et il a un fils qui s'appelle
Adonijah,
qui a envie de devenir roi. Lisons le verset 6. Alors ce roi était très beau, il avait bien du succès, enfin pas ce roi, pardon, ce fils qui voulait devenir roi était très beau, avait du succès avec les gens. Et nous voyons que la Bible nous dit un point particulier. Son père ne l'avait jamais chagriné. David n'avait jamais puni, grondé son fils
Adonijah.
Et la Bible souligne cela comme quelque chose de pas bien. Et nous voyons qu'il y avait beaucoup de vanité en lui.
Et
cette vanité n'avait jamais été freinée et corrigée par David. Alors il va prendre des personnages importants du royaume pour se proclamer roi. Et il y a un risque parce que ce n'était pas ce qui était prévu par Dieu et par David. Chacun peut lire dans le détail cette conjuration qui, comment elle s'est passée. David est averti et malgré son grand âge, il va préparer que ce soit Salomon qui soit couronné. Maintenant, nous pouvons lire au verset 2 et 3 du chapitre 2. 2 et 3 du chapitre
2.
Nous avons entre temps Adonijah qui a reconnu qu'il ne devait pas être roi. Salomon qui est couronné. Et voilà les dernières recommandations de David à son fils. Nous voyons là les dernières recommandations pour que Salomon suive Dieu. David lui dit, prends garde, fais attention à la loi. Pour que ça se passe bien ton royaume, ton règne. Et ensuite, David va mourir. Au verset 3, nous voyons donc qu'il cite la loi de Moïse pour que ça se passe bien. David connaissait la loi de Moïse et il était nécessaire que Salomon l'observe aussi.
David,
Lisons maintenant dans le chapitre 3, les versets 5 à 10. Jusqu'à 10. Nous voyons là que Salomon va à Gabaon. Gabaon, c'était un haut lieu où on brûlait des holocaustes. Il y avait un peu de confusion sur le fait d'adorer. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on offre des holocaustes sur des hauts lieux, différentes collines, comme les païens. Il devait y avoir un lieu précis. Salomon n'a pas de mauvaises intentions. Et bientôt cela va être plus clair dans son esprit quand il va bâtir le temple. Mais Dieu respecte en quelque sorte cette bonne volonté de Salomon d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Et il lui apparaît dans un rêve. Et Dieu va le mettre à l'épreuve en quelque sorte. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas demander? Il demande quelque chose que je veux te donner. Qu'est-ce que nous aurions fait à sa place? Peut-être que nous aurions demandé beaucoup de pouvoir,
puissant,
beaucoup de richesses. Mais Salomon, il ne va pas demander ça. Il va demander de la sagesse, de l'intelligence, de la compréhension des choses pour juger le peuple. Le peuple était important à cette époque. Et lui était encore assez jeune. Peut-être une vingtaine d'années et quelques. Et c'était un poids sur ses épaules de devoir régner sur
ce peuple.
Alors il a eu l'intelligence de demander cette sagesse de gouverner à Dieu. Il dit lui-même au verset 7, je suis un... tu as fait roi ton serviteur à la place de David mon père. Moi je suis un jeune homme et je ne sais pas sortir et entrer. C'est une expression intéressante, sortir et entrer. En fait, cela veut dire venir dans la présence de Dieu et sortir vers l'extérieur ensuite. Tous les hommes de Dieu de l'histoire avaient appris à entrer dans la présence de Dieu pour prier Dieu, pour lire et méditer sa parole, pour s'exercer à comprendre sa volonté, et ensuite pour sortir vers le monde extérieur. Et Salomon, il est conscient qu'il ne sait pas bien faire ça. Que son père David savait faire ça, mais pas lui. Et voilà que il est conscient, il demande de l'aide à Dieu pour cela. Et c'est une bonne chose. Dieu va dire au verset 10, Jikumi, la parole fut bonne aux yeux du Seigneur. Voilà. Et puis ensuite, au verset 11, on ne va pas le lire, mais Dieu dit, tu n'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé des richesses. Tu n'as pas demandé les victoires sur les ennemis. Mais tu as demandé du discernement. Alors je vais te le donner. Et encore en plus, tu auras les richesses. Là, nous voyons comment Dieu agit. Cela arrive qu'il nous mette à l'épreuve dans une circonstance ou dans une autre. Et il veut voir comment nous allons réagir. Et nous faisons tous des fautes. Nous devons tous apprendre. Et Dieu nous donne dans sa parole des exemples. Et là, Salomon, au début de sa vie, il est un bon exemple pour nous. Il recherche la compréhension, la sagesse selon Dieu. Il ne recherche pas de la vanité et de la facilité dans la vie. Et Dieu va lui donner ce qu'il demande. Il va lui demander plus. Il va lui donner plus. Mais il va lui demander de rester fidèle à sa parole. Ce n'était pas que Salomon n'avait plus d'exercice spirituel. Comme nous tous, il en avait tous les jours. Et après, il fallait rechercher la pensée de Dieu. Voilà, maintenant nous passons au chapitre 4, parce que nous devons avancer dans ce caractère du royaume de Salomon. Nous pouvons lire le verset 21.
C'est ça?
Oui,
4:21.
Là, nous voyons une caractéristique de son royaume. Pendant tous les jours de ce royaume, Salomon a dominé sur un grand territoire. Puisque ça partait de la frontière de l'Égypte, jusqu'au grand fleuve qui était le fleuve
Euphrate.
Et les différentes populations sur lesquelles ils dominaient apportaient des présents, des cadeaux, des impôts. Disons le verset 25 aussi. Là, nous voyons que le peuple d'Israël, depuis sa frontière au nord, c'est la ville de Dan, jusqu'à sa frontière sud, c'est la ville de Beersheba, ils étaient en sécurité. Ils n'ont pas eu de soucis de guerre. De guerre de l'étranger. Ou de guerre civile intérieure. Ils étaient en sécurité pendant ce long règne. Un règne de 40 ans. Une autre caractéristique que nous pouvons lire, c'est les versets
29 à 34.
Ça nous montre des caractères de Salomon et de son activité et de son règne. Il s'est intéressé à beaucoup de choses aussi dans le domaine scientifique, agriculture et aussi poésie. Nous pouvons lire donc 29 à 34. Jusqu'au 34, c'est...
Ah oui, c'est
merci, toi ça qui dira.
Merci.
Donc nous voyons ici que le roi Salomon,
il
s'est intéressé à beaucoup de choses. Non seulement il était le roi à qui il donnait le pouvoir politique, qui jugeait le peuple, il représentait l'autorité, mais en plus, il a étudié beaucoup de choses. Notamment les animaux, nous voyons aussi. Il a écrit beaucoup de proverbes. C'est marqué ici qu'il en a dit
3000.
Et nous aurons dans cette FBS l'occasion d'en lire quelques-uns. Le frère Michel va parler du livre des Proverbes, dont une grande partie ont été écrits par Salomon. On en compte environ 800.
Babala kamwanda mukul.
Eh bien, c'est seulement une partie puisqu'il en a fait
3000
qui ont été conservés et qui sont considérés comme la parole de Dieu. En plus, il a écrit le psaume 127, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Maintenant, nous allons passer au chapitre
5.
Là commence la grande œuvre de Salomon. Mettre en pratique le désir de son père. Construire le temple. À l'époque, il y avait encore le tabernacle qui était à Silo, qui était la tente qui avait été utilisée dans la sortie d'Égypte et la traversée du désert. Maintenant, Salomon va réaliser le désir de son père de construire un temple solide et véritable. Lisons au chapitre 5, juste le verset
5.
Alors il va mettre en pratique, une fois que son royaume est établi, le désir de son père de construire une maison pour Dieu. Pour cela, il a besoin de l'aide de spécialistes. Et il va prendre l'aide du roi du Liban, qui s'appelle Hiram. Le Liban se trouve au nord d'Israël. Et ils sont spécialisés dans la coupe de bois de grande dimension. Encore aujourd'hui, les cèdres du Liban, ils sont très connus. Ce sont des grands bois, des grands arbres avec du bois de très haute qualité. À l'époque, le roi de Tyr, de Sidon, il livrait du bois notamment en Égypte. L'Égypte manquait de bois de haute qualité. Et le Liban a beaucoup de montagnes avec ses cèdres. Alors c'était une activité importante à l'époque des rois du Liban de travailler ce bois. Et de l'exporter. Et le roi Hiram va proposer son aide à Salomon, qui va le lui demander aussi. Salomon va envoyer plusieurs milliers d'ouvriers israéliens pour aller aider les Libanais à couper beaucoup d'arbres pour faire le temple. Il va faire le temple avec ses arbres.
Et
il va faire aussi ses palais. Chacun peut lire plus en détail comment cela s'est passé. Nous n'allons pas nous allonger davantage. Il y aura aussi des spécialistes pour couper des pierres de qualité. Et Salomon va construire ainsi le temple. Nous pouvons lire encore le verset 12 du chapitre
5.
Il faut voir
Donc, il y a cette collaboration de Hiram qui va aider Salomon à bâtir le temple. Salomon va envoyer 10 000 Israélites chaque mois à tour de rôle pour aider les Libanais à couper le bois. Et en plus, ils étaient aussi des spécialistes pour bâtir des pierres. Pour faire des constructions de pierres de qualité. Alors, il y a les fondements qui vont être posés. Nous pouvons lire au verset 18 du chapitre
5.
Donc là, nous voyons que ces ouvriers de Salomon et les ouvriers du roi Hiram, en plus il y a les Gibliens. Aujourd'hui la ville s'appelle Byblos. Et tous ces ouvriers sont des spécialistes du travail du bois et des pierres. Ils vont les tailler et les apporter à Jérusalem. Maintenant, nous lisons le premier verset du chapitre
6.
Là, nous voyons que la quatrième année de son règne, la construction du temple démarre. En ayant des fondements de belles grandes pierres. Pour cela, nous pouvons faire un parallèle avec l'Église. Lisons un verset dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. En Pierre 2, 5.
Chapitre 5.
Verset
5. Tu crois que ça est Baba Dibet?
À l'époque du peuple d'Israël, il y avait ce temple qui était construit, qui représentait la maison de Dieu sur la terre. Nous savons qu'ensuite, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a commencé une nouvelle époque que l'on appelle aussi dispensation, qui est le temps de l'Église. C'est ce temps où nous nous trouvons maintenant, qui a débuté avec l'arrivée du Saint-Esprit à
Pentecôte.
Aujourd'hui, nous n'adorons plus dans un temple fait de pierres
matérielles.
Nous, les membres de l'Église, les vrais croyants, nous sommes chacun comme une pierre vivante. Et ensemble, nous formons l'Église
du
Seigneur Jésus et messes
spirituelles.
Nous sommes dans une époque où l'on ne rend pas des sacrifices avec des animaux que l'on va égorger. Dans un temple magnifique. Mais nous offrons des sacrifices spirituels. Lorsque nous rendons culte, nous n'avons pas besoin d'un temple parce que notre adoration est spirituelle. Alors nous revenons à un roi. Nous avons vu que la maison s'est bâtie assez rapidement. David avait déjà prévu de nombreuses bases. Salomon a mis ça en pratique avec Hiram, le roi du Liban. Plus précisément le roi de Tyr, qui est une ville au sud du Liban. Et chacun peut lire pour lui plus tard, c'est intéressant, le détail de la construction. Le temple est environ deux fois plus grand que le tabernacle. C'est donc un temple assez grand. Mais ce n'est pas non plus les gigantesques constructions des Grecs et des Romains. La base est de pierre. Ensuite, c'est recouvert les parois à l'intérieur de bois. De bois de qualité. Et encore par-dessus, Salomon va mettre une couche d'or. À l'intérieur de l'or pur. Et aussi à l'entrée. Donc c'est un magnifique temple grandiose. Lisons maintenant chapitre 6, versets 11 à 13. Dieu répète ses avertissements à Salomon maintenant que le temple il est construit.
11
à 13. C'est une exhortation que nous pouvons prendre pour chacun de nous. Pour chaque assemblée locale. Même si nous ne pratiquons pas la loi juive, nous avons le Nouveau Testament qui nous enseigne la doctrine. Et nous savons que si nous pratiquons une marche selon Dieu, selon les enseignements, particulièrement des évangiles et des épîtres, eh bien nous plairons à Dieu. Et Dieu ne s'éloignera pas de nous non plus. Et Dieu continuera de nous avertir comme il a averti
Salomon.
Parce que nous avons tous des risques de dévier d'une manière ou d'une autre. Alors, ensuite, on ne va pas lire plus dans les détails, mais au verset 16, par exemple, on voit qu'il met les planches de cèdre sur le sol et sur le mur. Au verset 21, on voit qu'il va recouvrir d'or. Et maintenant, on peut lire le verset 38. Là, on voit que cela s'est terminé en 7 années. Les fondements, la 4e année du règne. La fin, la 11e année du règne. L'or, entre autres, nous parle de la gloire et de la justice de Dieu. Il y a aussi donc une signification comme dans le tabernacle symbolique. Mais nous n'allons pas nous allonger là-dessus, cela prendrait trop de temps. Ensuite, il va mettre à l'intérieur les ustensiles du temple. Il va faire devant le temple la mer de fonte, c'est-à-dire là où l'eau se trouvera pour être purifiée pour les sacrificateurs. Il va faire des cuves d'airain de bronze.
À bronze.
Aussi pour préparer les sacrifices. Et nous pouvons lire le verset 51 du chapitre
7.
Voilà, donc on voit ici qu'il y avait des ustensiles, différentes choses qui avaient été préparées par David vont être apportées à l'intérieur du temple. Et il manque encore un objet très important. Pourrons lire le verset 4 du chapitre
8.
Là, nous voyons qu'il apporte l'arche de l'Éternel, qui représentait spécialement la présence de Dieu, qui va être mis dans le lieu très saint. Dieu qui atteste de sa présence de cette manière. Nous disons dans le chapitre un peu plus loin,
versets
10 et
11.
Toujours chapitre
10.
Nous voyons donc que Dieu va attester sa présence. La nuée va remplir le temple. Les sacrificateurs ne peuvent pas entrer à cause de cette nuée qui est à l'intérieur. C'est la gloire de l'Éternel qui remplit la maison. Alors on va procéder à la dédicace du temple comme l'inauguration. Et Salomon va faire une grande prière devant tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui se rassemble à l'entrée du temple. Salomon se tient agenouillé. Lisons les versets 22 23. Toujours chapitre 8. Alors le roi Salomon, dans toute sa gloire, il ne reconnaît qu'il n'est qu'un homme. Et il va s'agenouiller devant l'autel. Reconnaître que c'est Dieu qui est digne d'adoration, pas lui. Et c'est une bonne attitude. Il est dit spécifiquement qu'il se met à genoux devant cette foule de milliers de personnes. Dans les pays occidentaux, cette habitude de prier à genoux quand on intercède à Dieu se perd progressivement. C'est dommage. C'est bien d'avoir au moins une rencontre où l'on se met à genoux devant Dieu. Pour exprimer un petit peu physiquement aussi que l'on s'humilie devant le grand Dieu. Lisons encore les versets 28 à
30.
On ne va pas lire toute la prière, mais une partie. Mais ce sont des beaux versets à lire personnellement. Jusqu'au
30.
Nous voyons Salomon qui agit comme intercesseur. Comme par exemple Moïse ou Samuel l'avaient fait avant. Et il dit aussi, écoute et pardonne. Il sait que chaque homme de son peuple a besoin de repentance de ses fautes. Et là, nous voyons spécialement Salomon en tant que type du Seigneur Jésus. Qui lui aussi intercède pour nous. Lisons encore les versets 33 et 34. On voit que Salomon est conscient du danger de s'éloigner. Il se rappelle de ce que lui a dit son père, de ce que lui a répété Dieu, des risques de s'éloigner et du besoin de retourner vers Dieu en confessant ses péchés. Et après, il demande le pardon. Aujourd'hui, nous savons que le pardon nous a été donné en Jésus-Christ. Mais il est nécessaire de se rappeler régulièrement cette nécessité de confesser ses péchés. De se repentir. Et ensuite de repartir en abandonnant ses péchés. Aujourd'hui, il y a dans le monde de nombreuses églises gigantesques. Certaines insistent sur la confession des péchés. Mais d'autres disent simplement venez à Jésus, ça ira mieux. Et ils attirent beaucoup de monde avec des musiques de diverses sortes. Mais ce n'est pas juste de simplement dire ça ira mieux dans vos vies et puis de leur donner des cultes divertissants. Mais il est nécessaire de faire comme Salomon ici pour que chacun ait une vie de piété. Qu'on confesse les péchés qui arrivent si facilement. Et on sait que Dieu est juste pour nous pardonner. Voilà, nous allons encore, toujours dans ce chapitre, lire deux versets, le 54. C'est la fin de cette prière.
Ah, de quel roi du Saint-Bilej?
Alors c'est la fin de la prière où on voit qu'il était là à genoux. Et il va se lever. Encore le verset 63. Maintenant, ils offrent les sacrifices. Vous voyez que ce sont des sacrifices pour se réjouir de cette dédicace du temps. Il y avait des milliers d'Israélites qui étaient rassemblés là. Et Salomon n'avait pas fait les choses à moitié. Il leur a pas dit il y a à manger pour les premiers 200 et après vous rentrez chez vous. Mais le peuple avait beaucoup de richesses et il a préparé 2000 bœufs et 120 000
moutons.
Et ils vont se réjouir pendant 2 semaines. C'est une occasion exceptionnelle. Le temple est construit. Maintenant, dans la dernière partie de cet exposé ce matin, je crois que nous avons 5-10 minutes encore. Nous avons la fin du passage des Écritures sur Salomon. Dans les chapitres 9 à 5.
Chapitre 9
à 11. Nous voyons encore des exemples de grandeur. Ensuite la visite au chapitre 10. De la reine de
Sheba.
C'est une reine qui avait entendu parler de la gloire de Salomon. On ne sait pas exactement d'où elle venait. Il y a des possibilités que c'était le sud de l'Arabie. Peut-être la région du Yémen. D'autres pensent que c'était l'Éthiopie. On n'est pas tout à fait sûr, mais c'était une grande reine qui a fait un grand voyage avec ses soldats, ses officiers et beaucoup de cadeaux pour Salomon. Lisons chapitre 10, versets 23 à 25. Pour montrer sa gloire non seulement de la reine, devant la reine de Sheba, mais devant toutes les nations aux alentours. Donc, chapitre Jikumi, versets 23 à 25. Donc nous voyons qu'il y avait une grande gloire avec beaucoup de nations qui apportaient régulièrement des impôts, des présents, de l'or, et c'était ainsi une très grande richesse qui s'accumulait dans le pays d'Israël. Donc nous voyons comme un sommet de gloire. Cela nous parle aussi du temps où le Seigneur va régner sur la terre pendant 1000 ans. Salomon est un exemple, il faut être toujours prudent, mais dans une certaine mesure, du Seigneur qui va régner.
Nous
savons que le Seigneur, il va d'abord enlever son Église. Qu'il va y avoir plusieurs années de temps très difficiles sur la terre, dont l'Apocalypse nous parle en plus de détails. Ensuite, le Seigneur va venir sur la terre avec nous pour régner depuis Jérusalem. Et toutes les nations de la terre vont lui rendre hommage. En cela, Salomon, il annonce cette gloire du Seigneur Jésus. En cela, il est un type de Christ. Mais pas naturellement dans le chapitre 11 que nous allons aborder pour terminer. Lisons le premier verset du chapitre
11.
Verset donc premier d'abord. Et ensuite versets 3 et 4. Alors nous voyons qu'il y a eu un grand problème dans la vie de Salomon. Il s'est attaché par amour avec beaucoup de femmes. Et notamment des femmes étrangères. Il avait commencé par épouser la fille du pharaon d'Égypte.
kuyakubangisha nikuyikusela mukaji mwana wa mfumu wa Egypte.
Ça a toujours été une habitude dans les rois, les souverains, de donner leur fille à un autre pour faire des alliances, à un autre roi. Alors le roi d'Égypte, il a vu la puissance de David et après de Salomon. Il lui a donné sa fille pour faire alliance avec lui. Là, nous voyons qu'en plus, il a aimé des femmes qui venaient des Sidoniennes, il a dit. C'est le Liban. Des Édomites. C'est au sud d'Israël. Des Moabites et des Ammonites. C'est à l'est d'Israël. Des Éthiens. Probablement plus loin au nord. Donc, il s'est pris beaucoup de femmes, vous avez vu, 700 femmes et
300 concubines.
Et quel est l'effet que cela a produit? Avec les années, non seulement il s'est attaché à des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, mais il les a laissées pratiquer leur idolâtrie. Il y a des hauts lieux qui se sont faits où on adorait des divinités idolâtres. Et même lui a détourné son cœur après d'autres dieux. Il s'est éloigné de Dieu avec les années. Malgré tout ce qu'il avait reçu de bénédiction de la part de Dieu. Ce n'est pas pour rien que son père l'avait averti.
Ce n'est
pas pour rien que Dieu l'avait averti.
Ce
n'est pas pour rien que Dieu nous avertit, nous tous, toute la Bible. Il y a toujours le danger de se refroidir et de s'éloigner de Dieu. Par une tentation ou une autre. Une faiblesse, une négligence ou une autre. Alors c'est un enseignement important pour nous. De veiller avec attention à ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Et c'est dommage qu'au verset 4 à la fin nous avons lu « Son cœur ne fut pas parfait » comme le cœur de David son père dans sa relation avec Dieu. Nous n'allons pas lire le détail, mais il a fait des choses vraiment mauvaises avec des
idoles.
Lisons encore le verset 9. Dieu a dû se fâcher. Lisons encore le verset
11
à
13.
En conclusion de son règne. Alors, pardon. Malheureusement, il y a des conséquences avec cette idolâtrie. Pourtant, Dieu l'avait averti. Et Dieu annonce déjà qu'après la mort de Salomon, il y aura des problèmes. Déjà à la fin de sa vie, il a eu des ennemis et des difficultés. Mais cela va empirer après sa mort. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Nous avons vu cette bonne intention de Salomon au début de sa vie. Et malheureusement, une fin de vie triste. Nous avons vu énormément de bénédictions de la part de Dieu. Un règne glorieux. Mais un problème parce qu'il aimait avoir beaucoup de femmes. Un problème aussi parce qu'il a choisi des femmes qui n'étaient pas des croyantes en Dieu. Et qui petit à petit, à la fin de sa vie, l'ont détourné de Dieu. Un grand avertissement pour nous. Pour nos jeunes qui ne sont pas encore mariés. Que nous puissions les avertir aussi de choisir une femme ou de choisir un mari selon le Seigneur. Même si l'on pense, ah mais elle va se convertir peut-être. Peut-être que Salomon avait aussi pensé au début, elle va adorer à Jérusalem. Mais dans la pratique souvent, c'est le non-croyant qui tire loin de Dieu. Comme ces femmes idolâtres ont tiré Salomon loin de Dieu. Alors que nous puissions prendre cela pour des avertissements solennels. Et puis que nous puissions vivre selon Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Voilà, nous nous arrêtons là et nous continuerons demain.
Merci. Je suis un peu plus de temps.